Good Morning Business, le grand débrief.
Il est 8h44, le grand débrief commence toujours hors micro, pendant la pub, tellement les sujets de débat sont nombreux. On a Stéphane Manigold, président du groupe Eclore, qui est avec nous, Benoît de Broissia, gérant chez Montségur Finance, et Jean-Marc Daniel, bien évidemment. On va commencer, Stéphanie, par...
On va commencer par les métiers en tension. Le gouvernement est en train de mettre en place, en tout cas veut mettre en place, une régularisation des travailleurs sans papier sur des métiers en tension, notamment l'hôtellerie, la restauration. Stéphane Manigold, président du groupe Eclore. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça serait une bonne initiative? Vous attendez ça de vos voeux depuis longtemps?
Écoutez, moi,
c'est la fin d'une hypocrisie.
Je pense que beaucoup de chefs d'entreprise nous écoutent et la question qu'on peut valablement se poser, c'est est-ce que nous avons des secteurs en tension ou est-ce que c'est la valeur travail qui est en tension?
Ah.
Et ça, c'est pas la même chose. Et je vais vous rappeler quelques chiffres dans les secteurs dits en tension. Sur le site de Pôle emploi, où n'importe qui peut se connecter aujourd'hui et vérifier mes dires, il y a 50 157 cuisiniers inscrits sur le site de Pôle emploi en France disponibles qui touchent la solidarité nationale. 39 682 serveurs, serveuses qui touchent la solidarité nationale, qui sont censés travailler du jour au lendemain, et je les ai appelés, a priori, ils n'ont pas trop envie. Et dans le bâtiment, puisque je ne suis pas sectaire, je pense à mes confrères du bâtiment, puisque nous rénovons également nos restaurants, eh bien, il y a 14 143 personnes qui cherchent du travail et qui bénéficient du fruit de la solidarité. Donc, je ne sais pas.
Mais
si
dans
c'est...
la restauration, là, par exemple, les 50 000 et 30 000 que vous citiez.
Ça fait 100 000.
Combien ?
Ça fait près de 100 000 personnes.
Est-ce qu'il y a 100 000 emplois vacants ?
Il y en a 300 000.
Ah oui.
Donc, et dans les chiffres que je vous donne, c'est sur la base du volontarisme. C'est-à-dire que quand vous bénéficiez de la solidarité nationale et que vous inscrivez à Pôle emploi, vous faites le choix de dire « oui, j'accepte d'être contacté par un employeur ». Et donc votre numéro apparaît et vous rentrez dans ces chiffres. Mais vous pouvez aussi faire le choix, ce qui est près de la moitié.
Qu'est-ce qui se passe quand vous les appelez ?
Oh, ils nous expliquent que ils n'ont pas projet tout de suite de retravailler, ils veulent encore un peu profiter, prendre des congés. C'est vraiment la valeur travail qu'il faut remettre en place.
Mais quand vous dites ça, vous savez que vous allez, on va vous dire, vous exagérez, c'est pas vrai, il n'y a pas de choses.
Les chiffres sont là, ils sont vérifiables. Il y a 100 000 personnes qui touchent la solidarité nationale, on parle de secteur en tension. Moi j'ai un problème sur la valeur travail, le Covid a balayé la valeur travail. Mais tant mieux, on a protégé nos salariés. Aujourd'hui, il faut protéger les entreprises.
Mais, parlez clairement, Stéphane. Ça veut dire que vous considérez que la solution, c'est pas forcément, en tout cas, pas seulement de régulariser la main-d'œuvre immigrée ou de créer des permis de séjour spéciaux pour les métiers en tension. C'est de refaire travailler ceux qui sont inscrits à Pôle emploi.
Attention, je vais revenir sur vos premiers propos. La régularisation. Lorsque vous avez des travailleurs dans une entreprise qui sont en situation régulière, parce que vous le découvrez au bout d'un an, un an et demi, puisque la personne vient vous voir et vous dit, voilà, il faut que je change de nom, puisque la personne qui m'exploite, qui prélève de façon honteuse entre 20 et 30% du salaire pour redonner le reste aux travailleurs, c'est un vrai scandale.
Vous le voyez encore aujourd'hui,
business
dans vos cuisines,
absolument,
il y a des salariés qui viennent pour vous dire,
ils sont dans cette situation. Et au bout d'un an et demi, en fait, vous vivez un véritable drame, puisque la personne est intégrée.
Bien sûr.
Si ça fait un an et demi qu'elle est là, c'est qu'au fond, nous considérons que c'est une personne travailleuse,
que vous faites
volontaire,
vous voilà,
et qui est formée.
Eh bien, alors soit vous prenez le dispositif VALS de 2012 qui permettait au bout de 24 mois consécutifs de fiches de paye de régulariser la personne, mais c'est toute une procédure. Mais l'obligation légale à date, c'est de licencier le collaborateur. Et ça, c'est pas acceptable. Donc si cette réforme demain va permettre de régulariser celles et ceux qui ont la valeur travail chevillée au corps, qui s'intègrent parfaitement dans la société et qui travaillent, moi j'y suis favorable. Il s'agit pas demain de faire un appel d'air, c'est pas la même chose.
Jean-Marc ?
Oui, par rapport à ce qu'on vient de dire, je pense qu'il y a d'abord le fait que, effectivement, en refusant l'immigration, en ayant un discours assez hypocrite, on a créé des filières, un marché noir de l'immigration.
Un marché noir.
Et donc, à partir de ce moment-là, vous venez de le dire, hein, 30%
de commission.
C'est la ponction réalisée par les trafiquants. C'est du trafic de main-d'œuvre. Et donc, je pense que la plupart des États devraient s'orienter vers ce que la liberté de circulation, qui doit être une liberté de circulation, des hommes, comme est la liberté de circulation des marchandises, comme est la liberté de circulation des capitaux. Ensuite, concernant... Alors, ça suppose des conditions. Hein, je veux dire, quand Michel Rocard disait « Nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde », il répondait à un problème. C'est-à-dire que les gens qui viennent, ils doivent venir sur des bases qui sont des bases librement consenties, mais reposant sur le respect d'un certain nombre de règles, et notamment le respect du droit de propriété. Il est anormal que des gens se retrouvent dans les rues de nos grandes villes en situation d'occuper le domaine public ou le domaine privé. La deuxième remarque que je ferais, c'est que effectivement, ces chiffres sur le chômage sont édifiants, mais on n'arrête pas de parler de la réforme du chômage. Je maintiens, la bonne réforme du chômage, ce n'est pas d'appauvrir les pauvres, mais c'est de faire en sorte que la durée d'indemnisation d'appauvrir les pauvres, c'est de faire en sorte que la durée d'indemnisation du chômage soit relativement bien calibrée. Les économistes...
C'est prévu normalement avec la modulation par rapport à la conjoncture économique.
Hein. Absolument. Et donc on va voir quel va être le résultat de la réforme. Ce qu'il y a d'important, c'est quand même que les pouvoirs publics ont fini par s'apercevoir que c'était là qu'était le nœud du problème, et donc ils ont pris des dispositions. Avec, effectivement, un vote à l'Assemblée où c'est de nouveau, ça va, ça vient, et de 49-3 en 49-3, mais j'espère qu'on va arriver à faire cette réforme qui est indispensable.
On va passer à un autre sujet qui est très important, évidemment, aussi, c'est l'inflation, les taux d'intérêt et l'impuissance des banques centrales. Benoît de Broissia, on a vu hier la Banque d'Angleterre qui a augmenté son taux directeur de 75 points de base, avec l'effet nul, même contre-intuitif et contre-productif, la livre a continué à se déprécier. Christine Lagarde, hier, en marge d'un colloque ou d'un séminaire à Bâle, a dit que, selon elle, la récession ne suffirait pas à casser, tuer l'inflation dans l'œuf. Mais à quoi servent aujourd'hui les banques centrales ? Est-ce qu'elles vous rassurent ou est-ce qu'elles vous inquiètent ?
Alors, les banques centrales, à travers leurs actions aujourd'hui, leur double action, j'ai envie de dire, à la fois de relever les taux d'intérêt et, par ailleurs, de diminuer la taille de leur bilan, elles contribuent à resserrer les conditions de financement et donc à modérer l'activité économique, voire à provoquer des
récessions. Oui, mais la crise Lagarde dit que ça ne servira à rien.
Oui, elle dit que ça ne servira à rien.
De fait, ça signifie que la demande diminue face à une offre qui s'ajuste sans doute un peu plus lentement que la demande. Ouais. Et théoriquement, mais avec un effet de décalage dans le temps, cela influe sur les prix puisqu'il y a une moindre tension de la demande face à une offre qui reste relativement constante. Ouais. Donc l'impact n'est pas immédiat, mais l'impact doit se produire au fur et à mesure.
Et on voit l'impact, là, ça vient de tomber à l'instant. En France, la production industrielle en baisse de 0,8% en septembre. Et en Allemagne aussi, le chiffre n'est pas très bon. Baisse plus forte que prévu de la production industrielle. Donc là, on commence à voir peut-être des effets de cette récession qu'on nous annonce. Hein.
Oui, mais justement, la récession, ça diminue la demande, mais ça diminue l'offre aussi. Ah oui. La production industrielle se contracte, donc ça ne rééquilibre pas la situation.
Nouvelle baisse des commandes à l'industrie en Allemagne.
Il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Dans les éléments de l'offre, dans le prix de l'offre, je maintiens qu'on est sur une situation ou un marché où les gens qui prennent les décisions sur ces prix ne raisonnent pas de façon économique, ils raisonnent de façon politique. Quand l'OPEP décide de contenir sa production, elle raisonne de façon politique pour pouvoir augmenter ses prix. Mais quand Vladimir Poutine augmente le prix du gaz et essaie de restreindre la livraison de gaz, il n'a pas un objectif économique, il a un objectif qui est clairement politique. Ouais. Et donc, tous ces schémas-là sont des schémas qui sont à mon avis, inopérants. Moi, ce qui me frappe, c'est deux choses. La première, pourquoi la Banque Centrale d'Angleterre remonte ses taux pour essayer de sauvegarder la livre? C'est parce qu'elle n'a plus de réserve. C'est-à-dire qu'elle n'est plus en capacité, à la différence de ce qui se passe sur la Banque du Japon ou de la Banque de Corée, elle n'est plus en capacité sur le marché d'échange de fournir les dollars qu'on lui réclame. Ouais. Et donc, sa hausse des taux, c'est...
Pour défendre sa monnaie,
Sa monnaie et elle ne peut pas défendre sa monnaie parce qu'elle n'a plus des réserves suffisantes pour défendre
sa
monnaie.
C'est inquiétant, ça, quand même.
Alors, c'est doublement inquiétant parce que, un, elle n'a pas de réserve et deux, comme d'habitude dans ces cas-là, elle s'est adressée à la Réserve fédérale des États-Unis pour faire des emprunts. Et de même qu'en 1976, de même qu'en 1956, les États-Unis ont répondu niet. Enfin, pas niet, mais non. No. Et donc, je pense qu'il serait temps aussi, c'est un conseil que je donne à mes amis britanniques, de réaliser que les Américains ne sont pas leurs amis. Que les Américains raisonnent comme les Anglais raisonnaient au 19e siècle. Nous n'avons pas d'amis, nous n'avons pas d'ennemis, nous avons des intérêts. Et la deuxième remarque que je ferai avant de donner la parole, c'est que je pense que les banques centrales sont dans cette situation où à la fois elles agissent, elles donnent l'impression, et elles ont un discours qui est absolument sidérant. C'est-à-dire, elles agissent et elles disent, mais vous savez, on n'y peut rien, on comprend rien, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas où on va. Je pense que c'est particulièrement maladroit.
Les États-Unis ne sont pas forcément nos amis. On le voit avec l'automobile, où ils n'arrêtent pas de subventionner la transition énergétique. On le voit avec les soutiens à l'industrie. On le voit aussi avec les soutiens aux consommateurs. Parce que maintenant, il y aura une prime si vous achetez des voitures made in America. Stéphane ?
Oui, là, je vais reprendre ma casquette d'ancien. Pour ceux qui nous écoutent, j'ai quand même 20 ans d'automobile derrière moi.
Ouais. À quel poste, rappelez-nous?
J'étais le patron des grands comptes pour une marque allemande. Ah. Voilà. Ah. Et donc,
européenne, c'est bien.
Européenne, absolument. Je suis pro à la base français et ensuite Europe. Mais sur l'automobile, moi, j'ai vécu plusieurs phases. Vous avez d'abord la première phase qui consistait à dire aux Français sortir la fanfare, rouler en diesel, parce qu'on avait des excès de production sur le diesel. Ensuite, vous avez eu, je me souviens d'un Jean-Louis Borloo qui avait sorti pareil la fanfare en disant le bioéthanol c'est génial, ouais. Tout le monde de bioéthanol, sauf qu'on s'est rendu compte qu'on avait affamé la planète et que c'était pas forcément une bonne solution. Ensuite on a eu le GPL, il y a eu des explosions, donc on s'est dit bon bah on va le gaz liquéfié, on va reculer. Ensuite il y a eu tous ces mouvements en fait où on a financé, je le disais à l'époque, des poubelles écologiques puisqu'on n'intégrait pas le bilan carbone réel de ce que coûte une voiture, de la production à la destruction en passant par la fiabilité, puisque lorsqu'un véhicule est peu fiable, au fond, eh bien, ça va consommer de l'énergie pour reproduire des pièces et des déchets. Et aujourd'hui, l'électrique, ouais. Bah, moi, j'y suis favorable parce que ça fait plus de 2 ans que je roule avec un véhicule électrique.
Mais Thierry Breton a des doutes.
Oui, voilà, vous n'êtes pas d'accord avec Thierry Breton hein, qui met un bémol hein, sur l'échéance 2035 en Europe et qui dit qu'il y aura peut-être une clause de revoyure en 2026.
Oui, c'est un salarié sur 10 en Europe. Hein. Ouais.